La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans la parole des contes. Donc pour cette fois-ci, je nous ai réservé trois contes qui parlent encore de cheval. L'un qui nous vient du répertoire tzigane, l'autre est d'Espagne et le dernier d'Italie. Et alors, pour celui tzigane, ce sont des maquignons, deux maquignons. Et vous allez voir que là, ici, il n'y a pas de concurrence. Une grande amitié, oui. Un peu bizarre. Vous allez voir, enfin vous allez entendre. Donc notre premier maquignon s'appelle Barna et son ami Ferenc. Donc Barna entre à l'auberge. La salle est pleine de paysans venus à la foire et de marchands rusés guettant la bonne affaire. Les serveuses s'empressent, portant de l'eau-de-vie de prune de table en table. Avant de s'installer, le tzigane vérifie que son ami Ferenc est bien là. Il l'aperçoit, dans le fond, assis entre deux fermiers, discutant avec âpreté.
Oh, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, parce que moi, il me faut partir vite.
Barna a un petit rire satisfait au fond de lui-même. Une bonne somme d'argent pèse au fond de sa poche. Ouais, il a eu raison ce matin, en quittant la roulotte, de ne pas manger le moindre morceau, ni d'échanger la moindre parole avec sa femme. Ah, ça, ça porte chance, autant que des amulettes. Un petit verre, monsieur ? Laisse la bouteille, petite. Et un autre verre aussi, j'attends quelqu'un. La serveuse s'éloigne, l'alcool réchauffe la gorge du tzigane. Ça y est, au fond de la salle, Ferenc a saisi les deux mains droites de ses interlocuteurs. Il les lève, les fait se toucher l'une l'autre, ses lèvres remuent en même temps, annonçant sûrement un prix pour une bête. Les mains des deux paysans restent unies. Cela signifie qu'ils sont d'accord sur ce prix. L'un est le vendeur, l'autre l'acheteur. Ferenc, lui, sert d'intermédiaire. Il touchera une commission, c'est tout. Le voilà qui se lève, son affaire terminée. Il va s'en aller, mais Barna l'interpelle au passage. « Hé, Ferenc, viens par là !»« Salut, Barna. Et que tes chevaux vivent longtemps !» Ah, Ferenc, merci, et que les tiens pareillement. Ils s'installent face à face. Barna baisse la voix pour annoncer « J'ai vendu le cheval au maître de poste. » « Wow, bravo, Barna, bravo !» Ah, une vieille rosse asthmatique à un maître de poste ! Barna en a les yeux qui brillent de satisfaction. Il réplique « Ce matin, le cheval était un fier coursier. Oh, Barna, je te fais confiance. » Eh oui, le tzigane est fier de son travail. Il avait acheté pour trois fois rien une vieille bête. Il l'a soignée, lui a fait boire des infusions d'herbe. Hier, il a passé la journée entière à la préparer pour la foire. Il lui a teint le pelage, taillé la queue en crinière, lui a limé les dents en pointe pour la rajeunir, en a bouché les trous à l'aide d'esquilles de bois et de poids. Bien sûr, ce matin, la bête semblait un peu maigre, mais il a su la rendre fringante. L'arsenic fait briller ses yeux, et un morceau de gingembre enfoncé dans l'arrière-train, en bonne place, amène n'importe quel animal à dresser fièrement la queue. Mais le meilleur encore, c'est le truc classique des maquignons. Vous prenez un seau en fer, vous le remplissez de cailloux, vous l'agitez devant le nez d'un cheval plusieurs fois par jour, une semaine durant. Chaque fois, le cheval prend peur, remue avec force. Le jour de la foire, devant l'acheteur, il suffit de lever innocemment un seau vide. L'animal a un réflexe, se cabre et nie quel plus beau signe de vigueur pour qui va l'acheter. Seulement, dit Barna, le maître de poste va commencer à avoir des doutes. Aujourd'hui même, lorsque les remèdes cesseront de produire leur effet et qu'il aura le temps de regarder de plus près son achat. Ah oui, je comprends, Barna, je comprends. Eh oui, Ferenc, qu'il faut que je parte vite. Mais toi, dès demain, si tu sais y faire, je pense que tu pourras racheter la bête pour pas cher. Ouais, je vais essayer. Laisse-la se reposer une semaine et soigne surtout sa toux. Prépare-la ensuite pour la foire de la ville voisine. Donne-lui fière allure pour ce jour-là, comme je viens de le faire. Tire-en toi aussi une bonne somme. Je serai à la foire. Et tu me diras à qui tu l'as vendue. Alors, je la rachèterai à ton acheteur. Le jeu pourra durer longtemps. Entendu, Barna, je ferai comme tu dis. En essayant d'être aussi habile que toi. Marché conclu, Ferenc. Au revoir. Et que tes chevaux vivent longtemps. Pareillement, Barna, que les tiens vivent longtemps. Et nous voici en Espagne. Il était une fois qu'un lion qui voulait planter là sa lionne, et tous deux eurent de grandes disputes. Et la lionne disait au lion, si tu veux me quitter, c'est pour t'en aller avec une autre. Voyons, dis-moi pourquoi tu veux m'abandonner. Parce que tu sens mauvais. Mais non, c'est pas vrai. Menteur, triple menteur. Tu te cherches une excuse. Après s'être chanté pouille, ils décidèrent de faire appel à un conseil de trois bêtes qui auraient à se prononcer sur celui des deux qui avait raison et à déclarer s'il était vrai que la lionne sentait mauvais ou pas. Le premier de tous les animaux qui eut à donner son avis, ce fut le bœuf. Il s'approcha bien près, tout près de la lionne, la flaira soigneusement partout, puis déclara. Je suis d'avis qu'elle sent mauvais. La lionne bondit en colère et dit au bœuf « Ah ça, qu'oses-tu prétendre méchante langue, effrontée, maudit deux fois maudit ? Tu ne crains pas de contredire ta reine ? Tiens, voilà ton salaire !» Et elle lui envoya à la volée une telle gifle et un tel coup de griffe que le bœuf en tomba sur le sol, raide, mort. Alors, ce fut le tour du cheval, qui s'approcha bien près, tout près de la lionne, la flaira soigneusement de toutes parts, puis déclara elle ne sent pas mauvais, non, c'est mon avis. » Le lion, entendant de tels propos, fit un bond rageur, se dressa devant le cheval et lui dit « Que prétendu ? Tu, effronté, Méchante langue, maudit deux fois maudu. C'est ainsi que tu oses démentir ton roi? Eh bien, tiens, voilà ton salaire! Et il lui envoya un tel coup de patte à pleine griffe que le cheval en tomba sur le sol, raide, mort. Alors ce fut le tour de la renarde, qui s'approcha bien près, tout près de la lionne, la flaira bien et la flaira encore, la flaira par-ci, la flaira par-là, encore et encore et plusieurs et maintes fois, puis davantage encore. Et dit après l'avoir ainsi bien senti, au moins, pauvrette que je suis, je ne puis dire ni oui ni non, car je ne sens rien tant que je suis enrubée. Et voici notre troisième conte venu d'Italie, intitulé « Le cheval de Pépi », issu des 100 contes du monde entier, édité dans le Grand Livre du Mois. Et on doit pouvoir le trouver ailleurs, dans les 10 contes et légendes de chevaux de Brigitte Hélier Harfouillère. Et ça nous raconte qu'il y a plus de 500 ans, avait lieu chaque année à Sienne, petite ville d'Italie perchée sur une colline, une extraordinaire course de chevaux nommée le palio.
Depuis 4 siècles, les règles du palio sont les mêmes. C'est simple, il n'y en a pas. La course est d'une grande intensité et elle est surtout très dangereuse.
La cloche de l'église du quartier de l'Escargot venait de sonner 6 coups lorsque Pépi se leva. La chambre qu'il partageait avec son frère aîné Fabio était encore plongée dans l'obscurité. Sans même allumer une chandelle, l'enfant se saisit à tâtons de ses vêtements posés sur une chaise et s'habilla prestement. Puis il quitta la pièce sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller son frère aîné qui dormirait encore une bonne partie de la matinée. Il faisait froid ce matin-là dans ce quartier pauvre de Sienne, aux ruelles si étroites que le soleil n'y pénétrait que lorsqu'il était à son zénith. Pépi s'arrêta quelques minutes pour caresser le chat gris famélique qu'il croisait chaque jour. Il se sentait fatigué. La veille au soir, comme à l'accoutumée, Fabio était rentré très tard. Mais au lieu de se jeter tout habillé sur son lit pour s'endormir aussitôt, il s'était mis à crier « Devine, Pépi, devine !» Quoi, Fabio, quoi ? C'est moi qui étais choisi pour défendre à cheval les couleurs de notre quartier lors du prochain palio !» Fabio avait négligemment lancé sa casquette rouge sur le lit de son cadet qui le dévisageait les yeux ronds de surprise. « Oh, mais c'est merveilleux ! C'est merveilleux !»«
Oh, tu sais, c'est un peu normal !» avait continué Fabio. « Je suis le mieux placé dans ce quartier pour amener un cheval à la victoire. Tout le monde ici sait parfaitement que si je n'ai pas gagné la course les années précédentes, c'est que l'on m'avait laissé monter sur des haridelles, sur de mauvais chevaux. »«
Oh, bien sûr !» avait dit Pépi en hochant la tête. « Oh, cette fois, tu auras un cheval digne de toi !» Le souvenir de la soirée fit sourire Pépi, qui reprit sa marche d'un pas vif pour se réchauffer. Du haut de ses 12 ans, il vouait une admiration sans borne à Fabio de 6 ans son aîné. La mort de leurs parents, 3 années plus tôt, les avait laissés sans famille. Heureusement, le boulanger Benuccio, le boulanger de la rue voisine et le poète Piero, l'ami du boulanger, avaient pris sous leurs ailes les 2 enfants, les aidant autant que le permettait leurs modestes moyens. Pépi, surtout, était l'objet de leur affection. Ils étaient plus sévères pour l'aîné, car depuis longtemps déjà, Fabio abusait de l'amour que lui portait son petit frère. Non seulement il lui laissait la charge de gagner leur vie, mais celle aussi de s'occuper du ménage, des courses et des repas. Pendant ce temps, il traînait avec des garçons de son âge. Pépi, quant à lui, ne se plaignait jamais. Livreur pour le boulanger Benuccio. Il réglait le loyer, achetait de quoi manger. Parfois, il lui arrivait de mettre un peu d'argent de côté. Alors Fabio, qui aimait plaire, pouvait s'offrir des vêtements neufs et de nouvelles casquettes. Lorsque Pépi poussa la porte de la boulangerie, Benuccio l'attendait. « Ah, tiens, voilà mon Pépi !» Et il tendait à l'enfant un morceau de pain tout juste sorti du four. « Tiens, mange ! Il faut toujours manger avant de travailler !» Pépi était excité. Et oncle Benuccio, tu sais que Fabio a été choisi comme jockey pour la prochaine course du Palio. Le boulanger fronça ses épais sourcils. Apparemment, il ne partageait pas l'enthousiasme du jeune Pépi. Ah, encore, il ne manquait plus que ça. Fabio sait à peine se tenir sur un cheval. Et si les amis l'ont réélu ? L'année dernière, ton frère en a profité pour se prélasser jusqu'à l'épreuve de peur d'être fatigué. Non seulement il ne t'aide jamais, mais en plus, pour une fois qu'il pouvait rapporter un peu d'argent, il n'a pas gagné. Oh, mais cette fois, ce sera différent. Il va monter un vrai cheval de course. Ah bon? Et qui t'a dit ça? Disait le poète Pierrot. Pépi baissa la tête en rougissant. C'est que cette nuit, j'ai tellement prié Sainte Catherine. Le poète ouvrit la bouche et resta sans voix. Embarrassé, il se tourna vers Benuccio en le prenant à témoin. « Ah, si c'est pas malheureux, hein, si c'est pas malheureux d'avoir un frère aussi fainéant !» La ville de Sienne fournissait un cheval à chaque jockey choisi par son quartier. Ce dernier devait le nourrir, l'entretenir jusqu'à l'épreuve. Seul le vainqueur se voyait offrir sa monture à l'issue de l'épreuve. Le cheval que l'on amena dans le quartier de l'Escargot cet après-midi-là n'avait rien d'un coursier fringant. Il était grand, avec une robe blanche parsemée de poils gris et des jambes grêles. « C'est un Napolitain !» affirma Fabio en le conduisant dans un réduit qui ressemblait à une cave et que lui avait prêté Benuccio, le boulanger. « Mais il est très maigre !» dit Pépi. « Et regarde ces sabots, ils n'ont jamais été soignés. »«
Oh, tu n'auras qu'à t'en occuper, » répondit le frère aîné. « Nourris-le, soigne-le, toilette-le, tu as 6 mois pour qu'il soit parfait. »
Les premiers jours, Pépi eut bien du mal à éprouver un peu de sympathie pour l'étalon efflanqué qui reculait au fond de sa stalle, les oreilles couchées en arrière et le regard fuyant dès qu'il voyait Pépi s'approcher de lui. Et Pierrot et Benuccio distribuaient des avis. « Il a peur », avait déclaré le poète. « Ce cheval a dû être battu et il se méfie des hommes. »
« Et puis sûrement qu'il meurt de faim », avait dit le boulanger tout en remplissant de pain sec un sac. « Je ne sais pas comment ce pauvre cheval va pouvoir porter ton frère. »
Tout en parlant, il glissa une brioche tiède dans la main de Pépi. « Allez, avale ça et va vite livrer, mon gars !» Alors Pépi décida d'apprivoiser les talons blancs. Dès qu'il avait fini son travail pour Benuccio, il rejoignait le cheval dans son box. « Regarde ce que je te ramène !» Il renversait par terre un sac de croûtons et le cheval s'empressait de les dévorer. Au fil des jours, l'animal accepta de se laisser caresser, et le garçon et lui s'attachèrent peu à peu l'un à l'autre. L'enfant blond rayonnait. L'amitié qu'il éprouvait pour les talons compensait l'absence de ce grand frère qui devenait un homme et ne s'occupait plus de son petit frère. Le regard de Pépi avait changé. Il trouvait le cheval beau, comme sont beaux ceux que l'on aime. Il ne se lassait pas de le dire et de le répéter. Et Benuccio
Et Pierrot commençait à se fâcher. « Ah, oh, tu deviens fou, Pépi, avec ce cheval. À t'entendre, on pourrait croire qu'il s'agit de, je sais pas, de Pégase. »«
Ah bon ? Et c'est qui Pégase, oncle Pierrot ?»«
Vois-tu, Pépi, 1000 ans auparavant, des hommes appelés les Grecs vénéraient plusieurs dieux, et ces dieux étaient doués de pouvoirs extraordinaires. » L'un de ces dieux, Poséidon, eut un enfant avec une belle jeune fille nommée Méduse. Cela mit très en colère une autre déesse, Athéna, qui transforma cette jeune fille en monstre.
« Oh, bah c'est terrible !» coupa Pépi.
« Ah oui, bah oui, dit Pierrot. Ah bah les dieux pouvaient se montrer cruels. Un jour, cette jeune fille, devenue un horrible monstre, fut décapitée. » Et de son cou jaillit un cheval nommé Pégase, d'un blanc éclatant et qui pouvait voler.
« Oh, il avait des ailes !» demanda Pépi.
« Des vraies ailes faites de plumes, comme les oiseaux ?»«
Eh oui, de grandes ailes, d'un blanc immaculé !»«
Ah, et est-ce qu'il vit toujours ?»«
Bah, bien sûr, puisqu'il est immortel !»
Oh, comme mon étalon serait heureux, lui, d'avoir des ailes pour gagner la course du paléo.
J'ai une idée, Pierrot. Tu sais, personne ne nous a dit comment se nommait mon cheval.
Eh bien, je vais pas l'appeler Pégase, bien sûr, mais il se nommera Peg, et je prierai pour que le cheval ailé le protège.
Les mois passèrent, les journées de Pépi étaient bien remplies. Hein, chaque fois qu'il le pouvait, il rendait visite à Peg, qu'il accueillait en hennissant. Il aimait si fort ce cheval qu'il n'imaginait plus sa vie sans lui. Et chaque soir, après avoir, pour Fabio et lui-même, invoqué longuement Sainte-Catherine dans ses prières, l'enfant demandait à Pégase de veiller sur les talons et de faire en sorte qu'ils puissent concourir pour leur modeste et pauvre quartier. Le frère aîné Fabio n'était jamais revenu voir le cheval, ne l'avait jamais emmené galoper dans les collines. Il était de plus en plus distant, de plus en plus absent. L'été arriva, les préparatifs de la course devaient se dérouler début août et alimenter les conversations.
C'est une course incroyable où tous les coups sont permis. Ici, on peut couper la route de ses adversaires, leur donner des coups de cravache ou même les jeter au sol. Le palio de Sienne existe depuis 1650. C'est une course médiévale dont les règles sont restées inchangées. La course elle-même a lieu deux fois par an, le 2 juillet et le 16 août. Il faut faire trois fois le tour de la Piazza del Campo, une place irrégulière recouverte de terre battue avec trois virages très serrés. Les jockeys montent sans selle, les risques sont donc grands et les chutes souvent spectaculaires.
Chacun émettait des hypothèses sur le résultat du tirage au sort. Sur les 17 chevaux des 17 quartiers de la ville de Sienne, 10 seulement seraient appelés à concourir. Pépi se montrait terriblement excité et Benicio et Pierrot avaient bien du mal à le calmer. «
Mais attends que Peg soit choisi pour participer à l'épreuve, petit, avant de t'énerver !»«
Ah, je suis sûre qu'il le sera, je suis sûre !» N'est-ce pas vous qui répétez toujours que lorsqu'on désire très fort quelque chose, eh bien, cette chose-là, elle arrive ?
Enfin, ce fut le jour tant attendu. La cité était en totale effervescence. Dès l'aube, les cloches de chaque quartier s'étaient mises à sonner, invitant leurs habitants respectifs à venir prier. Pépi, dont le frère aîné n'avait pas daigné se lever pour l'accompagner, s'était agenouillé dans la paille juste avant de partir. Là, tout près de son cheval, il s'était adressé avec ferveur à Sainte-Catherine, puis il s'était relevé, avait caressé longuement les talons blancs.
« Oh, t'en fais pas, Peg, les saints nous protègent. Et Pégase est avec nous !»«
Oui, oui !»
Et puis l'enfant lui avait passé un licol et ils avaient quitté le box. La Piazza del Campo était noire de monde. Pépi entraîna Peg dans un angle de la place réservé aux chevaux. De là, il vit Pierrot et Benicio lui adresser un petit signe amical. Le jury composé de trois personnages importants de la cité était installé derrière une table juchée sur une estrade sur laquelle trônaient deux bocaux de verre.
Le cœur de Pépi battait si fort qu'il eut peur tout d'abord de ne pas entendre. Mais dès que le tirage au sort commença, le silence se fit. Devant la foule recueillie, un monsieur vêtu de rouge plongea la main dans le premier récipient, puis dans le second, en retira successivement deux morceaux de papier pliés et les remit à son voisin de gauche, tout vêtu de violet. Sur le premier papier était inscrit le nom d'un cheval, sur le deuxième, celui du quartier désigné pour le monter. Deux à deux, les noms des chevaux et des quartiers étaient annoncés, entrecoupés de cris de joie ou de huées. Le cœur de Pépi battait à tout rompre. Un, deux, trois, quatre. Et Peg n'avait pas encore été cité, ni le nom du quartier. L'oncle Binuccio le rassura d'un signe, on avait le temps, bien sûr. Cinq, six, sept. À côté de Pépi, un grand garçon maigre hurlait de joie. Ah, Pépi s'inquiéta. Sainte-Catherine, il ne reste que trois couples à nommer, ne m'oubliez pas. Huit, neuf. Pépi se sentait si mal qu'il eut peur de tomber. Peg se tourna vers lui et posa son nez humide sur son épaule. Dix, hurla l'homme habillé de violet. Le cheval, Peg, et le jockey du quartier de l'Escargot. Pépi n'en crut pas ses oreilles. Oh, ses vœux étaient exaucés. Non seulement Peg allait concourir, mais il le ferait pour leur quartier. Il serait monté par Fabio. Fou de joie, l'enfant se jeta au cou de son cheval pour l'embrasser. Pierrot et Benuccio l'avaient rejoint. Le poète tremblait. « J'en reviens pas. J'en reviens pas. » Et tard dans la nuit, Fabio réveilla Pépi pour lui annoncer qu'il quittait le quartier de l'Escargot pour suivre des amis plus fortunés. Il ne voulait plus entendre parler de ce cheval blanc, malingre et incapable, et il ne participerait pas à la course. « Fabio, tu peux pas faire ça à Peg. Je m'en suis tellement occupée. Tu n'as qu'à le monter, toi. » D'abord, ce cheval ne m'aime pas. Je suis passée le voir tout à l'heure et il a essayé de me mordre. Mais tu sais très bien que je ne sais pas bien me tenir à cheval et qu'en plus je suis trop jeune. Il faut avoir au moins 15 ans. Demande à tes oncles d'intervenir pour toi. Je suis sûre qu'ils t'aideront. Ils te refusent jamais rien à toi. Et en effet, quelque temps plus tard, Benuccio a annoncé à Pépi. Eh bien, Pépi, j'ai obtenu une dérogation pour toi, parce que tu t'es toujours montré courageux et que c'est toi qui t'es occupé de Peg. Les conseillers de cette ville ont décidé que tu avais le droit de concourir malgré ton jeune âge. Les oncles s'étaient donné la peine, hein, pour que Pépi ait obtenu la charge de représenter le pauvre quartier de l'Escargot. Il était temps, l'épreuve était prévue pour le lendemain. Pépi dormit très peu, sa petite chambre lui paraissait vide et il pouvait s'empêcher de guetter le moindre bruit, espérant le retour de son frère aîné à un moment ou à un autre de la nuit. Il aimait son frère et il pouvait tout lui pardonner, mais Fabio ne se montra pas. 6 heures n'avaient pas encore sonné que Pépi frappait à la porte de Binuccio. Hey, c'est toi, mon petit. T'as pas bien dormi, hein? Oh là, entre vite, je vais sortir les brioches du four. Tu vas manger, tout ira mieux, tu verras. » Assis sur une marge de pierre, Pépi écoutait les paroles réconfortantes du boulanger. C'était comme une chanson, un poème. Il aurait pu l'écouter pendant des heures. L'enfant avait fini sa première brioche lorsque Pierrot, le poète, arriva portant une bannière dont l'étendard d'un verre flétri était orné d'un escargot d'un pal doré. « Le faste de notre quartier se résume à cela. Nous n'aurons pas de mal à paraître les plus pauvres cette année encore. Notre richesse sera le cœur de Pépi et la bravoure de Peg, répondit Benuccio le boulanger. Va préparer ton cheval, gamin. La course aura lieu à 10 heures. » Pépi ne voulut pas participer à la parade qui précédait l'épreuve. Il savait que tous les quartiers riches allaient défiler en rivalisant d'arrogance. « Il préférait se concentrer en restant calmement avec Peg, à qui il avait expliqué ce qui allait se passer. À 9h30, il s'agenouilla aux côtés de l'étalon, ferma les yeux et pria. Il se releva, sortit du box, en tenant son cheval par la bride, et se dirigea sur l'esplanade de terre où devait se tenir la course. Surpris, les jockeys des autres quartiers dévisageaient Pépi et Peg avec dédain. Qui était ce cheval maigre que l'on n'avait jamais vu? Et ce gamin, jeune et fluet? Pépi ne se laissa pas déconcentrer. Il disait à son cheval: « Ne les regarde pas, Peg, ne les regarde pas. Ils se croient forts parce qu'ils sont plus riches que nous. Mais nous avons d'autres qualités qu'ils n'ont pas. » C'est ce que dit toujours oncle Benuccio. Et puis, tu sais, Peg, Pégase est avec nous. Peg et Pépi vinrent se placer sur la ligne extérieure qui leur avait été assignée. Les autres concurrents prirent place à sa gauche et dans le plus grand désordre. Ils paraissaient nerveux et déjà des propos agressifs s'échangeaient. Lorsque le drapeau donnant le départ s'abattit, la foule se mit à hurler. Peg ne se montra pas affolée et prit un galop rapide, écoutant les paroles d'encouragement de Pépi. « Va, mon Peg, va, c'est bien, continue, continue, continue. » Le cheval et l'enfant se rendaient bien compte de l'agitation qui régnait à leur côté. Les coups de cravache pleuvaient, non sur les montures, non, sur les jockeys, qui se frappaient les uns les autres en s'injuriant. Personne ne faisait attention à Peg et à Pépi. Ils en profitaient, caracolant en tête. Cependant, quelques cavaliers entreprirent de les rattraper. Et lorsqu'ils arrivèrent à leur hauteur, un déluge de coups s'abattit sur le dos de Pépi et sur la croupe de Peg. Les larmes jaillirent des yeux de Pépi et sa main se posa sur Peg, sur l'encolure du cheval. « Ne fais pas attention, Peg, sois courageux. » Il se donnait du courage à lui-même. Le pauvre cheval efflanqué qui n'avait jamais été entraîné semblait à bout de force. Il trébucha et les autres concurrents un à un les dépassèrent. Pépi, désespéré, s'exclama « Mais Sainte-Catherine, Pégase, venez !» Alors il se passa quelque chose d'extraordinaire. Ce cheval maigre, sur qui personne n'aurait misé, se redressa fièrement. Une force soudaine s'empara de ses jambes et de ses sabots, de sa poitrine et de son dos. Il se mit à galoper à une telle vitesse que Pépi, le visage fouetté par le vent, ferma les yeux. Il avait l'impression d'être dans les airs, de voler. Et un rire vint arrêter ses larmes. « Pégase » murmura-t-il. « Pégase !» Les tours de piste s'enchaînèrent. Ni Pépi, ni Benuccio, ni Pierrot, ni tous ceux qui accueillirent Peg en vainqueur ne surent réellement ce qui s'était passé. La joie qui s'était emparée de la ville de Sienne lorsqu'ils arrivèrent les premiers était telle que l'enfant n'eut plus le temps de penser. Une fête inoubliable s'ensuivit dont Peg et Pépi étaient les héros. Et quand vint le soir, que Benuccio et Pierrot raccompagnèrent Peg dans son box, l'enfant, à moitié endormi, demanda « Mais Benuccio, Pierrot, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?»«
Ce qui est arrivé, » s'exclama Pierrot en éclatant de rire, « mais un miracle qui fait de toi et de ton cheval le couple le plus riche de la ville de Sienne.
Mais dis-moi, dis-moi, est-ce que tu as vu Pégase? Est-ce qu'il était là ?»
« Ah, va savoir, » répondit Benuccio. « Il y avait trop de poussière sur ton passage. Allez, va dormir maintenant. Demain, tu auras un très beau logement. »
Pépi les embrassa, puis, épuisé, se coucha tout habillé. Dans la nuit, il s'éveilla et voulut ôter son gilet de laine. C'est alors qu'il découvrit, glissé dessous, une plume. une jolie plume d'un blanc immaculé. Chers auditeurs et chères auditrices, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Bravo à vous. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.